Le violon, on dit que c'est un instrument avec qui il y a une valeur affective. Valeur affective que n'ont pas forcément d'autres instruments, on peut le tenir dans les bras. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je suis forcément tout à fait d'accord avec ce principe, c'est-à-dire que les instruments à cordes, les instruments archets surtout, donc le violon, l'alto et le violoncelle, sont des instruments avec qui on a un rapport différent. Donc vous avez par exemple les cuivres, on leur crache dedans, on leur souffle dedans, ils ont des durées de vie très courtes. Même un piano qui est une grande mécanique, dure pour les meilleurs une centaine d'années. Un violon, il est fait, on ne sait pas pour combien de temps. J'ai encore eu sur mon établi un violon de 1480 qui sonnait comme au premier jour. Et donc le fait de ce rapport au corps qui en fait un instrument affectif, donc le violon on le serre dans ses bras, on le tient sous son menton, le violoncelle résonne entre les jambes et appuie contre le corps du violoncelliste, fait que c'est une toute autre chose, un tout autre rapport, et le luthier que je suis a un rapport de confiance absolue, est un confident, est une personne à qui on donne une partie de son corps et une partie de son âme, quoi.
Est-ce que c'est tout ça qui a fait que vous avez changé d'orientation ? Parce que je crois que vous n'étiez pas destiné d'abord à être luthier, mais votre papa était pasteur ?
Voilà, mon père, moi je suis né en Suisse d'un père pasteur calviniste neuchâtelois, donc de Neuchâtel, un canton suisse. Et ma mère est une vaudoise du Piémont qu'il a rencontrée quand il a exercé son ministère ici en Italie. Donc mes parents m'ont fait aimer l'Italie, mais en même temps j'ai vécu dans cette atmosphère religieuse, protestante, avec trois autres frères, et j'étais moi destiné, j'avais envie de faire le métier de mon père, parce que j'aimais beaucoup mon père, j'aimais son travail social, son travail de contact. Mais à 12 ans, ma mère qui était musicienne m'avait mis au violoncelle quand j'étais enfant, et à 12 ans je suis allé la première fois chez un luthier, pour faire réparer mon petit violoncelle. Et puis j'ai vu cette atmosphère tellement... C'était l'évidence. Moi, je travaillais tout le temps avec mes mains. J'avais mon petit atelier déjà à la maison. Je faisais un tas de trucs. Puis quand j'ai vu la manière dont on construisait les violons, j'ai eu un choc. J'ai eu le choc de voir cette boîte de résonance, cette boîte simple de bois blanc. Puisqu'on a toujours l'impression qu'un violon, un violoncelle, c'est fait de bois précieux. Non, c'est de l'érable et du sapin et qui sont blancs avant le vernis. Et je suis arrivé juste au moment où le luthier fermait la boîte d'un violon, et je me suis dit, mais c'est incroyable que les sons sortent d'une chose pareille, d'une telle simplicité. Et alors j'ai eu ce coup de foudre pour ce métier, et ça a été assez difficile de faire avaler ça à mes parents, et je suis parti à Crémone quand j'ai fait mon bac assez jeune. J'ai fait encore une année de théologie à Neuchâtel, qui était la faculté de théologie protestante de l'époque. Et puis après, je me suis enfui à Crémone où j'ai fait l'école de lutherie.
Alors, vous faites des violons, vous jouez aussi. Et je crois aussi que vous avez des grandes rencontres. Les musiciens qui viennent réparer leur violon chez vous, quel est le style de rapport vous entretenez avec les violonistes ?
Je suis d'abord un constructeur. C'est-à-dire que ce que j'ai tenu absolument à faire, c'est qu'après mon école de Crémone, j'ai travaillé chez différents maîtres, j'ai fait un peu un tour du monde, j'ai travaillé à Genève, après à Paris, j'étais beaucoup aux États-Unis. Et là, j'ai compris que la lutherie pouvait être trois métiers différents. C'est-à-dire que on est constructeur comme on est formé, ou alors on est restaurateur et réparateur, ou alors on est commerçant. Et moi, je fais les trois à la fois. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de tout faire, puisque c'est cette profession que j'ai voulu à tout prix. Je veux la faire complètement, donc je me suis entouré d'assistants et je me suis donné les moyens de pouvoir faire tout. C'est-à-dire que je consacre la moitié de mon temps à construire des instruments et le reste à la restauration, à l'expertise, à la réparation et au commerce des instruments anciens. On voit passer, justement, comme vous dites, des grands violonistes, des grands collectionneurs. Ils ouvrent un étui, puis nous, on est éblouis par l'instrument qui en sort. Et on s'en inspire pour construire nos instruments. Donc tout ça, c'est le fait que ce soit une vie complète. Par exemple, aujourd'hui, on vient de livrer les derniers instruments de tout un orchestre qu'on a construit pour... Tbilissi, en Géorgie, une commande totalement inattendue. Un émissaire de cet orchestre est venu nous demander de construire 24 violons, 10 violoncelles et 10 altos harmonisés pour l'orchestre de l'opéra de Tbilissi, en Géorgie. Alors ça, on a cru que c'était une blague, et moi j'ai commencé à faire une architecture un peu du son, des modèles. Et on a passé la commande et on a fini cet orchestre qui sera inauguré au mois de mai dans ce pays qui est un peu en guerre, un petit peu en instabilité, mais qui veut cette culture de musique classique.
Vous disiez, le violon, il peut avoir des centaines d'années, il y a donc un rapport au temps. Le violon, on peut le tenir dans ses bras, il y a un rapport physique. Expliquez-nous comment vous entretenez ce rapport avec quelque chose qui est un peu éternel.
Alors, le rapport physique, il est évident, il est de tous les jours. On a deux sortes de musiciens qui viennent à l'atelier. Et ceux qui accusent le violon de tous les maux, de tous leurs problèmes qu'ils ont eu au concert précédent, ou quand ils ont des problèmes eux-mêmes, tout se répercute sur leur jeu. Et puis les autres qui disent, voilà, je joue plus bien, je suis trop vieux, j'ai plus de force. Et puis on s'aperçoit que ou le manche s'est décollé, ou les cordes sont trop loin, ou l'instrument est mal réglé. Donc c'est tout ce rapport-là, déjà psychologique, avec le musicien qui est intéressant. Mais il y a un rapport tellement, tellement serré avec l'instrument, c'est que, par exemple, il y a des gens qui transpirent énormément des mains, et tout ça, ça abîme et le vernis, et ensuite le bois qui est dessous. Ça abîme pas mal de choses. On a un tas de procédés pour protéger l'instrument des nuisances humaines. Mais il y a aussi les nuisances qui viennent de l'instrument, c'est-à-dire que le violon n'est pas une position tout à fait très naturelle. Le violoncelle est beaucoup plus naturel, mais le violon, on est tordu, on commence à avoir des épicondylites, des problèmes ici, des brûlures sur la peau. Il y a beaucoup de choses qui font que tout ça, c'est extrêmement intéressant. Un violoniste a 3 ou 4 instruments à lui, suivant le répertoire, suivant où il va pour épargner, mais il y a son violon. Alors quand on arrive à son violon, donc quand la personne vient à l'atelier et nous dit « bon, ben, je le laisse une semaine, tu t'en occupes, c'est mon violon », on sait que c'est comme s'il nous laissait une partie de lui-même et qu'on a toutes ces responsabilités là après. Mais c'est des rencontres toutes d'une richesse incroyable, quoi. Ce sont des histoires à n'en plus finir.
Vous pouvez nous en raconter une ?
Par exemple, ici à Rome, Félix Saio, qui est le grand violoniste qui jouait en soliste des Musici et qui était... Qui venait d'Espagne et à 16 ans a enregistré les 4 saisons en 1955, je crois. C'était le premier enregistrement qui a eu tous les prix du disque. Cherchait depuis toujours un Guadagnini, toujours. Et un jour, je lui dis, tu sais, ma tante a un Guadagnini de son mari, mais elle ne voudra jamais le vendre. Mais enfin, il est magnifique. Puis je lui expliquais ce Guadagnini, moi j'étais tout jeune. Et lui, il m'a montré après coup, sur son agenda, toutes les semaines, il m'a dit, appelez le Bay. Guadagnini, il m'appelait, puis à la fin j'ai eu le courage de parler avec ma tante, qui m'a dit, mais non, on veut quand même pas vendre ce violon. Il était dans une banque en Suisse depuis 10 ans, j'allais mettre des humidificateurs, j'allais mettre des trucs, ce pauvre violon était dans un safe à la banque. Et à la fin, lui, il m'a dit, bah, écoute, donne-moi le numéro de compte de ta tante, j'envoie l'argent, et j'achète le violon à travers tes yeux. Il a fait ça, ma tante a cédé, il est venu chercher le violon après coup, et ça fait 30 ans qu'il joue ce violon. C'est 30 ans qu'il joue ce violon et que je vois ce violon comme s'il était resté dans ma famille. Par contre, il est joué dans le monde entier et je l'entretiens depuis 28 ans exactement.
Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre de votre métier ? Quel est votre plus beau souvenir ?
Le plus beau souvenir, c'est la confiance que m'ont fait les Musici de Rome. C'est pour ça que je suis ici, que je me suis établi finalement ici. J'ai rencontré les Musici quand j'avais 20 ans. Les Musici, qui était justement cet orchestre de Félix Saio, qui les premiers ont rejoué la musique baroque après la guerre, ont fait connaître les 4 saisons de Vivaldi. Aujourd'hui, vous les entendez partout. Mais à l'époque, c'était une chose nouvelle. Et ce sont eux qui ont transmis l'amour de la musique baroque. Ils tournaient partout dans le monde. Ils enregistraient pour Philips, qui avait son studio d'enregistrement à La Chaux-de-Fonds, ma ville natale en Suisse. Et un jour, moi, je construisais mon premier violoncelle parce que j'avais jamais eu de violoncelle. Je m'étais réconcilié avec mes parents. J'étais retourné faire des vacances à La Chaux-de-Fonds. Et au fond du jardin, dans le pavillon, je me construisais mon premier violoncelle pour moi. Et puis au dernier moment, quand j'allais mettre les cordes, arrive un de ces musiciens qui enregistrait là. Et il me dit, moi, j'ai appris qu'il y a un jeune luthier ici. Mon violoncelle, ben viens, on va l'essayer demain à la salle. Et je dis, mais il se présente. Et moi, j'étais tout impressionné parce que c'était mes stars de l'époque, quoi. Et alors, je me présente à la salle avec mon violoncelle. J'avais passé toute la nuit à mettre les cordes, à régler avec des copains violoncellistes, etc. Et puis, ils se sont dispersés dans la salle. Ils ont joué ce violoncelle. Ils m'ont dit, bah, c'est pas mal, on te l'achète. Je dis, mais non, je ne veux pas vendre, c'est mon premier, c'est mon fiancé, c'est pour moi. Puis je suis parti comme ça, comme un imbécile, je suis rentré à la maison. Et le lendemain, ma mère vient me chercher, me dit, il y a des drôles de types à la porte, viens voir. Et je présente, il y avait Francesco Strano, qui est resté mon grand ami, qui est professeur ici à l'académie, et qui dit, voilà madame, on a vu enceinte de votre fils, on aimerait l'acheter, puis il ne veut pas nous le vendre. Enfin, ça a été une introduction extraordinaire pour une réconciliation définitive avec mes parents qui avaient tous les disques de ces gens-là. Et puis ensuite, ils m'ont acheté ce violoncelle, je suis venu à Rome, j'ai découvert cette ville, et j'ai eu le projet depuis toujours de m'établir là. Donc ça, c'est une des aventures les plus importantes de ma vie, puisque j'y dois ma présence, je pense, définitive dans une des plus belles villes du monde, quoi.